La matinale de 19h. Le magazine de société de Radio Campus Paris. L'actu engagée.
Un petit village antifasciste vers la Sorbonne.
La culture décalée.
J'ai découvert ses albums et j'ai pété une pile.
Le sujet étudiant.
Pour moi, la démocratie étudiante, elle se fait dans les AG, dans les mobilisations.
Et ce qui se passe en Ile-de-France.
Le but, c'était en fait de préserver les terres agricoles autour de la capitale.
Du lundi au jeudi, de 19h à 20h, sur Internet, sur le DAB+, et sur le 93.9 FM.
La production d'informations en temps de guerre résulte des mêmes contraintes et des mêmes enjeux que ceux du journalisme en temps de paix, mais en plus exacerbés. En temps de guerre, l'idéal d'une presse libre donnant à des journalistes indépendants la mission d'aller chercher une information ou des images susceptibles d'être occultées peut vite devenir insupportable aux autorités civiles et militaires. Les correspondants de guerre chargés de vérifier directement leurs informations sur le terrain sont apparus dès le milieu du 19e siècle et se sont illustrés, comme William Russell du Times, dès la guerre de Crimée, puis pendant la guerre de Sécession. Que ce soit pour s'assurer le succès sur le théâtre d'action ou pour préserver le moral des troupes sur le front ou des civils à l'arrière, les États ont très tôt interdit ces pratiques d'information libre en imposant une censure radicale. S'interroger sur les liens entre guerre et médias, c'est étudier la façon dont ces derniers sont engagés dans les conflits, soit comme cible, la guerre faite aux médias, soit comme auxiliaire, la guerre grâce aux médias. Le journalisme de guerre se distingue par trois caractéristiques qui structurent tout le reste. D'abord, l'information est produite sous contrainte, contrainte d'accès, de temps, de sécurité, contrainte politique aussi, ou matérielle. Ensuite, la vérification se fait souvent en environnement dégradé, peu de données fiables, des témoins traumatisés, des images manipulées, des zones interdites. Enfin, la guerre est un espace saturé d'intentions, le mensonge y est rarement accidentel et l'information est fréquemment instrumentalisée. Dans ce cadre, le reporter doit tenir une ligne simple, observer, recouper, contextualiser et publier ce qui est solide en assumant ce qui reste incertain. Cette discipline n'a rien de théorique, elle conditionne la sécurité des sources, la crédibilité du média et parfois la vie des équipes. Le journalisme de guerre est un métier d'accès, parce que sans accès, il n'y a que des récits de seconde main. C'est un métier de preuve, parce que la guerre attire les manipulations. C'est un métier de responsabilité, parce qu'informer peut sauver des vies, mais peut aussi en exposer si l'on travaille mal. L'exigence n'est donc pas seulement stylistique, elle est factuelle, sécuritaire et éthique. Et maintenant, c'est le sommaire. Aujourd'hui, donc, au programme de cette émission, nous recevons Léna Mauger, la rédactrice en chef de la revue Cometa, pour évoquer l'information sur la guerre en Ukraine. Elle sera interviewée par Félix. Dans le Zoom, nous recevons Lily-Rose Desmar et Eva Degrelle du label B-Side pour parler de leur festival en cours. Elles seront interviewées par Siana. Le Flash Info nous sera présenté par Mathilde et côté chronique, ce sera avec Hortense et Thomas. Et on commence avec l'information sur la guerre en Ukraine.
La matinale de 19h, 93.9 FM.
Comment continuer à informer sur la guerre en Ukraine? Quels sont les enjeux du journalisme sur les conflits en Europe? Aujourd'hui, nous recevons Léna Mauger, rédactrice en chef de la revue indépendante Cometa. Bonjour.
Bonsoir.
Elle va nous dévoiler les solutions et leur façon de travailler. Elle sera interviewée par Félix. Bonjour Félix.
Bonsoir Fabien.
Et c'est à toi.
En 1928 paraissait un roman écrit par l'écrivain allemand Erich Maria Remarque, foncièrement pacifique, intitulé « À l'Ouest, rien de nouveau, mais les temps ont définitivement changé ». Et si vous me permettez cette formule peut-être un peu trop simpliste, si à l'Ouest rien ne semble nouveau, à l'Est tout reste à comprendre. Tout reste à comprendre tant l'Europe de l'Ouest, l'Europe occidentale a regardé vers l'Est, vers cet espace post-soviétique, comme on feuilleterait une carte déjà connue, persuadée d'en maîtriser les contours, les récits et les lignes de fracture. Mais l'invasion à grande échelle de 2022 de l'Ukraine a fait vaciller tout ce qui semblait stable et avec lui notre manière de raconter le monde. Un autre paysage apparaît, l'Europe de l'Est n'est plus simplement l'objet de récits, elle devient un sujet à part entière. Et c'est dans cet espace de bascule que s'inscrit la revue Cometa. Léna Mauger, bonsoir. Est-ce que finalement, le véritable enjeu dans lequel s'inscrit cette revue, c'est d'accepter qu'à l'Est et ailleurs dans le monde entier, il n'y ait plus rien d'évident et qu'il y a tout à comprendre?
Oui, en fait, là, vous l'avez très bien raconté, la revue Cometa, elle est vraiment née d'un constat. On se moque tout le temps des Américains qui ne savent pas placer Paris ou Bruxelles sur une carte du monde. Et au moment de l'invasion à grande échelle, on s'est aperçu que soudain, des villes apparaissaient sur la carte. On ne savait pas placer Kiev, on ne savait pas placer Kharkiv, on ne savait même pas placer Varsovie. Et l'idée de la revue est vraiment... cette idée de décentrer le regard, de regarder ailleurs et de se dire ce monde, comment on le comprend quand on vient d'ailleurs. Comment aujourd'hui, quand on est sur le terrain, on raconte sa ville qui bascule, on raconte la bombe qui est tombée au fond du jardin. On raconte, par exemple, comme cette poétesse ukrainienne qui s'appelle Luba Yakimchuk et qui nous racontait « Un soldat russe dort dans ma maison ». Et c'est donc avec ces gens-là qu'on a commencé à construire l'idée de la revue Cometa.
Mais justement, comme le disait Fabien, il y a un enjeu après 4 ans de guerre, un enjeu de fatigue de l'information. Les publics francophones, les publics européens semblent fatigués de voir des bombardements, des informations vraiment qui arrivent constamment. Et finalement, comment continuer à informer sur la guerre en Ukraine sans précipiter cette lassitude ? Est-ce que finalement cette approche qui semble, cette approche humaniste qui semble recomposer le réel à hauteur d'individus, est-ce que ça permet de lutter justement contre cette lassitude de l'information ?
Alors peut-être, juste avant de répondre à votre question, il faut peut-être que je décrive pour les auditrices et les auditeurs ce que c'est la revue Cometa, puisque c'est comme un livre, c'est un objet qui fait 160 pages qu'on garde. Et on s'est dit, dans un endroit où les dictateurs veulent brûler les livres, l'objet qu'on voulait créer, c'était un objet contre l'oubli. Et donc, pour ne pas se lasser de l'information, le principe de la revue, c'est le temps long. C'est de faire écrire sur 2 mois, 3 mois, 6 mois, ces autrices, ces auteurs de l'intérieur. Et donc, quand vous ouvrez la revue, vous n'êtes plus du tout dans le flux de l'actualité, dans le bruit. Vous rentrez dans une sorte de géopolitique de l'intime. Et donc, vous comprenez le monde à travers des regards, des voix qui ne sont pas forcément les nôtres. Et ce temps long-là... cette complexité rend compte de la complexité du réel.
Mais donc justement, vous avez l'ambition de donner la parole à ces journalistes, à ces photographes qui ne sont pas entendus dans notre espace occidental. Et vous expliquez que ce sont souvent des journalistes et des photographes en résistance qui témoignent des bouleversements du monde et représentent les derniers recoins de liberté. Est-ce que vous pouvez développer justement sur ces journalistes en résistance ? Qu'est-ce que vous entendez par là ?
Alors, vous avez commencé l'introduction en disant qu'aujourd'hui, le journalisme de guerre, c'est un journalisme sous contrainte. En fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des endroits où vous ne pouvez plus aller en tant que journaliste. Vous ne pouvez pas rentrer dans Gaza. C'est très, très compliqué de travailler en Russie. Ça a été très compliqué pendant longtemps, puisque les journalistes étaient visés d'aller travailler en Syrie. Et donc, en fait, nous, on donne la parole à des gens en faisant très attention, parce qu'en les faisant écrire, on peut les mettre en danger. Mais en tirant ces voix de l'intérieur, on leur permet, d'avoir un travail, de pouvoir continuer à informer, de pouvoir survivre, mais aussi de sortir cette information de ces zones qui aujourd'hui sont inaccessibles.
Et donc vous inscrivez finalement dans cet héritage de ce journalisme sur le temps long. Vous avez des auteurs importants comme Svetlana Alexievitch, Emmanuel Carrère, Timothy Snyder, qui ont témoigné, soutenus par des universitaires. Est-ce que vous pourriez développer sur finalement ce comité de rédaction, ce comité consultatif avec des universitaires par exemple comme Anna Colin-Lebedev, des commissaires d'exposition, une agente d'artiste? Comment est-ce que ce groupe pluridisciplinaire sert justement les intérêts de la revue?
Alors nous, on a fait 2 choses en créant Cometa. On a réuni une petite équipe de rédaction et ensuite on a fait une cartographie des auteurs, des chercheurs et des photographes un peu partout dans le monde, donc d'abord à l'Est et puis ensuite dans d'autres pays dans lesquels on a commencé à travailler. Et en fait, pour aller identifier ces personnes-là, on avait besoin au fond de spécialistes, de connaisseurs. Et donc, ce comité consultatif, donc avec Pierre Aski, qui est spécialiste de géopolitique, Anna Colin-Lebedev, vous l'avez dit, qui est chercheur, il nous aide aussi à identifier différentes voies. Et cette pluralité, celle d'avoir des artistes, des journalistes, c'est cette pluralité-là qui, je pense, fait la richesse de Cometa, parce que ça crée la pluralité de ces récits.
Et par rapport à la photographie, quelle est la place de la photographie dans Cometa ? Est-ce que finalement la grammaire visuelle des conflits aujourd'hui, on a vu qu'elle était bouleversée par les médias sociaux, on peut suivre malheureusement la guerre sur Twitter maintenant. Comment est-ce que la photographie incarne l'image de Cometa ? Qu'est-ce qu'elle raconte des conflits ?
Alors quand on publie un long récit qui peut s'étendre sur 5 pages, 10 pages, 20 pages, parfois 45 pages, on n'envoie pas un auteur travailler avec un photographe sur le terrain. Il ne travaille pas à deux. Donc en fait, l'auteur, donc on a beaucoup d'écrivains dans Cometa, raconte son histoire. Et le choix qu'on a fait, c'est dans ces récits-là déjà, de croiser les regards. Donc je peux vous donner un exemple très concret. C'est que quand Emmanuelle Carrère part en Géorgie, parce que sa cousine, à l'époque, était la présidente de Géorgie et qu'il n'avait jamais exploré encore dans ses livres cette partie géorgienne de sa famille, plutôt que de l'envoyer avec un photographe qui aurait fait des portraits de sa cousine dans le palais présidentiel, on va aller chercher le travail d'une photographe géorgienne qui, depuis l'annexion vous savez, quand en août 2008, il y a eu une guerre et que la Russie était vraiment, les chars russes étaient à 34 km de Tbilissi et ensuite sont restés dans certaines régions, et bien elle travaille depuis cette époque-là sur des familles qui sont éclatées, sur ce pays qui vit face à cet ogre russe et qui est en tension permanente. Et donc on croise ce regard de l'intérieur de cette photographe géorgienne et le regard de l'écrivain qui va découvrir au fond un pays que lui-même ne connaît pas et dans lequel il se rend pour la première fois à 64 ans.
Et justement sur les conditions de travail de ces journalistes, de ces photographes qui agissent sur des terrains où parfois leur liberté est menacée, comment est-ce que vous travaillez concrètement avec eux ?
Alors ça dépend des profils. Nous, ce qui a été vraiment le plus difficile, ça a été de travailler avec des photographes qui étaient encore en Russie. On a notamment à un moment, donc nous on publie des boulots personnels, donc c'est souvent des photographes qui sont sur un sujet depuis plus de 10 ans, et en fait rien que le fait d'entrer en communication avec eux, ensuite ils peuvent se faire arrêter et être accusés d'être des agents de l'étranger. Donc en fait on passe par des VPN, par des au début il y en a qui choisissaient de pas travailler ou de pas publier leurs images sous pseudonyme. Ensuite, il y en a qui ont demandé à travailler sous pseudonyme et au bout d'un moment, il y en a plein qui disent « c'est trop dangereux pour nous ». Et donc, on se retrouve dans certains pays avec cette difficulté de ne plus pouvoir sortir ces images de l'intérieur. Et bien évidemment, nous, on ne peut pas prendre le risque de mettre quelqu'un en danger.
Alors justement, pour revenir sur la question des thématiques abordées par Cometa, vous êtes parti justement de ce constat de l'Europe post-soviétique avec la guerre en Ukraine. Et puis finalement, vous avez ensuite tout un tas de différents numéros, un spécial Japon par exemple qui est paru, un numéro sur l'Arménie, un numéro aussi que j'ai le plaisir de le dire à l'antenne, qui aime encore les États-Unis. Et donc quelle est finalement pour vous la ligne un peu directrice de tous ces numéros
Alors on a deux types de numéros, en effet on a des numéros thématiques et des numéros spéciaux centrés sur un pays qui ont tous le même titre, c'est « Et si ce pays était le centre du monde ?» Donc ça incarne vraiment la ligne éditoriale de Cometa. Quand on construit un numéro spécial pays, en fait, on a quelques observateurs de l'extérieur qui vont s'y balader, s'y promener, nous emmener là-bas, le découvrir avec un œil neuf, une curiosité qui pourrait être la nôtre. Mais notre but, c'est vraiment de créer des guides géopolitiques et sensibles de pays qu'on ne connaît pas, en révélant les plus grands écrivains, les plus grands photographes, les plus grands historiens, et raconter ces pays-là vraiment de l'intérieur. Ensuite, les numéros thématiques, on va aller chercher... Alors, vous avez cité « Qui aime encore les États-Unis ?» Je tiens à préciser que c'est un numéro qu'on a publié avant la réélection de Trump, avec notamment un témoignage qui moi, m'a bouleversé d'une Irakienne qui racontait ce que les guerres impériales américaines avaient fait à son pays.
Merci beaucoup. On va faire une petite pause et on va écouter Femme hystérique de Haute et Freddy.
There's a pounding at the door.
C'était Femme hystérique de Haute et Freddy.
La matinale de 19h. Le magazine de société de Radio Campus Paris.
C'est la seconde partie de cette interview avec Léna Mauger pour parler de l'enjeu du journalisme sur les conflits. Félix, je te laisse la parole.
Madame Mauger, vous avez cité avant cette petite interlude musicale l'exemple de cette Irakienne, donc justement qui témoignait dans le numéro qui aime encore les États-Unis. Mais est-ce qu'il y a une histoire, un reportage, une rencontre publiée dans Cometa depuis la création de la revue qui vous a particulièrement marqué et qui est justement un exemple particulièrement criant de cette volonté de Cometa de comprendre le monde qui bascule?
Alors moi, je suis toujours épatée du talent, du courage, de la richesse des textes et des photos qu'on reçoit. Enfin, c'est vraiment... Enfin, les gens sont engagés sur le terrain. Mais je vais vous en citer deux, en fait, que j'ai adorés. Alors le premier, c'est une formidable journaliste d'origine russe qui a eu le prix Albert Londres pour une enquête sur Wagner. Elle s'appelle Xenia Bolchakova. Et Xenia est partie en Ukraine après l'invasion à grande échelle. Et elle a rencontré une jeune femme, gynécologue, qui avait un frère jumeau, donc elle était très très proche. Et à un moment, elle a l'intuition qu'il arrive quelque chose à son frère. Elle dit « c'était mon jumeau, je sens ». Et elle n'a plus de nouvelles de lui. Et en fait, elle voit que son téléphone est encore activé et pourtant son frère ne répond plus. Et donc, elle ne dort pas, elle dit « c'est passé quelque chose ». Et plus tard, elle reçoit un message dans son téléphone qui dit « Avez-vous enterré votre frère ?» Et en fait, c'est le soldat russe qui avait assassiné son frère, qui était plein de culpabilité, qui a dit en fait « c'est moi, je me suis retrouvée, j'ai été envoyée là, et donc je me suis mis à tirer sur des hommes, et donc je m'interroge. » Et s'en est suivi en fait une conversation entre cette femme et le tueur de son frère. Donc je vous invite vraiment à lire parce que c'est un sujet de film, c'est bouleversant, c'est magnifiquement écrit par Xenia qui a vraiment pris le temps en fait d'écouter à la fois la douleur de cette femme, mais aussi tout son travail qu'elle a fait pour après Xenia a continué et elle-même a retrouvé en fait le profil et a retracé toute l'histoire de ce soldat russe. L'autre, c'est donc on est toujours en Ukraine et alors imaginez que demain la France soit envahie, vous savez pas changer une ampoule. En fait, vous êtes écrivain, votre métier c'est d'être derrière un ordinateur et d'écrire de la fiction et vous dites, je vais prendre les armes parce que je dois défendre mon pays. Donc ça, c'est l'histoire d'un écrivain qui s'appelle Artem Chapey, donc qui part, qui est un des premiers à aller s'engager sur le front et même comme beaucoup d'auteurs, au début on leur dit, mais je ne sais pas ce que vous pouvez faire parce que vous n'avez pas changé une ampoule. Et lui, c'était un immense fan de Noam Chomsky et donc il avait traduit l'œuvre de Chomsky en ukrainien. Et peu de temps après l'invasion à grande échelle, il voit que Chomsky lance un appel aux Ukrainiens en disant il faut être pacifiste. Et là, lui est dans la guerre, a pris les armes. Et pourtant, il dit, j'ai pris le temps de publier une lettre ouverte en réponse à Chomsky. Et il appelle ça le West-splaining, comme le mansplaining. Et en fait, toute sa lettre, c'est dire, mais vous, intellectuels occidentaux, qui vous êtes pour nous dire ce que nous, pauvres Ukrainiens d'un pays que vous savez peut-être pas justement placé sur une carte, on doit faire? Est-ce que demain, si votre pays est envahi, vous allez rester chez vous et dire qu'il faut rester pacifiste, ou est-ce que vous allez prendre les armes? Et en fait, ça, ces deux articles, pour moi, racontent très bien la ligne éditoriale et le type d'articles qu'on publie dans la revue.
Et cette idée absolument magnifique de finalement recomposer les bouleversements du monde géopolitique à hauteur d'individus et les incarner dans des individualités, dans des trajectoires individuelles qui sont bouleversées par la guerre, évidemment. Cometa revendique quand même une forte indépendance éditoriale parce que vous avez une position dans l'espace médiatique français assez marginale, je pense. Comment est-ce que, dans un contexte où de nombreux médias, justement, dépendent de grands groupes, de financements publicitaires, quels sont les défis au quotidien de la construction de cette indépendance ?
Alors, c'est sûr que quand on s'est lancé en 2023, lancer une revue papier de 160 pages sans publicité, j'insiste là-dessus, en librairie vendue tous les deux mois, c'est pas gagné. Donc, clairement, notre premier modèle économique, c'est les ventes. Donc, c'est vous, les lectrices, les lecteurs. Donc, abonnez-vous à Cometa, allez chez votre libraire. Les libraires aussi ont besoin d'être soutenus. Achetez de la presse indépendante. Mais d'abord, pour financer ces récits, il faut lever de l'argent. Donc, en fait, on est allé voir des personnes qui ont de l'argent et on a monté une structure qui faisait que des personnes pouvaient investir, mais que les cofondateurs de la revue gardaient toute la maîtrise éditoriale. Donc en fait, on a monté une société de presse et on a levé des fonds pour pouvoir lancer cette... Parce que évidemment, la presse, il faut pas... Les premières années, vous n'êtes pas rentable. Il faut que les gens en entendent parler. Donc c'est très bien de m'inviter ce soir. J'espère que Cometa, ça s'écrit avec un K, que vous irez découvrir cette revue-là. Mais c'est sûr que le premier modèle, d'abord, c'est celui de la lecture. Hein. Donc c'est celui des ventes.
Et cette indépendance journalistique, il faut évidemment souligner, se double aussi de tout un tas d'activités de solidarité, notamment les bourses Cometa. Vous avez mis en place ces bourses pour soutenir des artistes et des journalistes en exil ou sous répression, comme vous l'avez vous nous avez parlé justement de tous ces journalistes qu'il faut saluer et qui travaillent au péril de leur vie. Est-ce que vous pourriez développer justement sur le système de ces bourses
Oui, bien sûr. Alors, quand vous êtes dans un espace démocratique sur lequel pèse une pression d'extrême droite, de personnes qui voudraient contrôler l'information, il y a deux enjeux. C'est celui de la diffusion. Donc, en fait, créer un média indépendant, c'est là où vous diffusez l'information. Mais il y a aussi celui de la production de l'information. C'est-à-dire que, en fait, comment vous choisissez de financer des récits qui ne seraient pas les récits dominants, qui seraient des récits qui iraient s'intéresser à des gens qui vivent en Arménie. Et donc là, on s'est dit, au fond, les auteurs, l'argent que vous pouvez donner pour financer un article, vous ne pouvez pas donner des dizaines de milliers d'euros. Donc comment on arrive à soutenir des auteurs au long cours pour avoir le temps de produire des histoires, donc des récits écrits ou des récits photographiques. Et en fait, une idée nous est venue qui vient plutôt au fond de l'art contemporain, dans lequel il y a un peu ce matching entre des mécènes et des artistes, des mécènes qui vont choisir d'aider directement un artiste. Et nous, en fait, on fait se rencontrer aussi des mécènes avec des auteurs en disant, voilà, il y a cette photographe qui va photographier les femmes dans la guerre en Ukraine. Elle a besoin d'un an pour aller au bout de son sujet, pour accéder aux lignes de front. Et là, est-ce qu'il y a un mécène qui serait intéressé pour la financer ? Et moi, ce qui m'a vraiment marqué, là, puisqu'on le voit bien que quand même l'actualité internationale s'emballe, c'est que c'est... Des gens riches, plutôt que de s'acheter une voiture, viennent nous voir en nous disant « mais moi, j'ai envie de faire quelque chose, je me sens impuissant. Demain, mes enfants, j'ai pas envie qu'ils grandissent dans un endroit, un pays où l'extrême droite prendra le pouvoir. J'ai envie de soutenir une information libre. » Et donc, il y a directement des gens qui viennent nous proposer d'aller soutenir directement ces autrices, ces auteurs, ces photographes.
Et justement, face à cette crise de confiance envers les médias qui est quand même de plus en plus globale, face à cette rapidité de l'information, est-ce que ce journalisme sur le temps long, qui est promu par Cometa, est-ce que vous pensez qu'il va pouvoir redevenir central dans l'espace médiatique français et international, on l'espère, ou restera-t-il forcément un peu à la marge ?
Alors ça, il nous faudrait des heures d'émission pour répondre à cette question. Alors, ce qu'on voit aujourd'hui en librairie, c'est qu'il y a quand même une véritable appétence plutôt pour la fiction. Le temps long de l'écriture, de la lecture, il est là, mais il y a plutôt cette envie de s'échapper de ce réel qui nous angoisse, qui nous oppresse, qui nous... Et c'est la raison pour laquelle, à Cometa, on a demandé à des écrivains de raconter ce réel-là, parce qu'en fait, avec leur regard, avec leur sensibilité, avec leur talent d'écriture, il nous aide à la fois à décrypter ce monde, mais aussi peut-être à nous désangoisser, justement. Parce que vous avez parlé de pluridisciplinarité. En fait, ça peut être des artistes, des cinéastes, des... Et donc cet appétit-là pour des histoires différentes, pour des histoires qui nous emmènent ailleurs, pour des histoires qui nous réconcilient aussi avec l'autre, avec son humanité. Je pense que ce qui réunit, le mot qui réunit le plus les histoires qu'on publie, c'est vraiment l'humanisme. Et décentrer le regard, ça veut aussi dire s'intéresser à la manière dont quelqu'un d'autre pense, même s'il ne pense pas forcément comme moi.
Justement, et encore davantage que s'intéresser à comment l'autre pense, s'intéresser à des thèmes très diversifiés. Le dernier numéro de Cometa, Faites la cuisine, pas la guerre. Vous avez donc un numéro aussi spécial Japon, un guide de survie sans démocratie, espérons qu'il ne concernera jamais la France. Si la Pologne était au centre du monde, et puis aussi Rire pour résister. Et ma dernière question, c'est le prochain événement organisé par Cometa, la 4e édition du Cometa Comedy Club, le 11 mai prochain au Théâtre de l'Atelier à Paris. Pouvez-vous nous préciser à nos auditrices, à nos auditeurs, quelle sorte d'humour vous pratiquez chez Cometa ?
Alors, le Cometa Comedy Club, il est né de ce numéro qui s'appelle « Rire pour résister ». On s'est dit, en fait, une manière de désangoisser, mais aussi de décrypter, de donner des clés, c'est l'humour. Alors, l'humour, il est menacé par les dictatures, mais c'est aussi un outil extraordinaire de pédagogie. Et donc ce numéro-là, il était marrainé par Charline Von Honecker et on avait à l'intérieur plein d'écrivains, par exemple l'écrivain Mohamed Bougarsar qui a eu le prix Goncourt pour la plus secrète mémoire des hommes, qui écrit un article absolument, que moi je trouve vraiment hilarant dans la revue. Et on s'est dit, mais au fond, cette géopolitique, comment on pourrait la raconter sur scène en croisant du stand-up avec des humoristes, des témoignages de l'intérieur avec... et en fait, on ne rit pas des autres. C'est-à-dire que c'est toujours... par exemple, je reviens à la guerre en Ukraine, puisque c'était le fil. Mais dans ce numéro « Rire pour résister », les Ukrainiens nous partageaient tous les mèmes qu'ils ont aujourd'hui pour se moquer des Russes. Et donc là, on a demandé à un humoriste ukrainien de nous dire comment aujourd'hui, dans cette horreur de la guerre, on essaye de survivre par des petites touches d'humour tous les jours. Et donc cet événement, vraiment, venez au Théâtre de l'Atelier, parce que ça nous fait du bien, mais ça nous donne aussi beaucoup, beaucoup de clés pour comprendre ce fracas du monde.
Eh bien, merci Léna Maugé, merci Félix, et tout de suite, on retrouve le Flash Info avec Mathilde.
Le Flash Info de la matinale de 19h.
Actualité de ce jeudi 26 mars, ce matin, un hommage national a été rendu à Lionel Jospin, ancien Premier ministre socialiste, décédé ce dimanche. Le président Emmanuel Macron a salué celui qui a modernisé la vie économique, sociale et démocratique de la nation de manière inédite. Les obsèques de Lionel Jospin se sont tenues cet après-midi au cimetière parisien du Montparnasse. Parlons maintenant pop culture, mais toujours décès. Si le Flash Info a des airs de nécrologie, c'est parce que plusieurs personnalités nous ont quittés depuis une semaine. Parmi elles, Loana, première star française de télé-réalité, révélée dans la saison 1 de Loft Story en 2001. Elle a été retrouvée morte à l'âge de 48 ans, hier, mercredi 25 mars, à son domicile à Nice. Depuis, les hommages se succèdent, mais surtout, des voix s'élèvent pour pointer du doigt la responsabilité du public et des médias dans cette mort prématurée. Devenue icône du jour au lendemain, objet de scrutation permanente, elle a aussi essuyé le sexisme et la grossophobie de ses commentateurs, tandis que ses problèmes d'addiction, ses dépressions et ses tentatives de suicide avaient été étalés dans la presse. Benjamin Castaldi, présentateur de Loft Story à l'époque, a lui-même déclaré « La vérité, c'est qu'on est tous un peu responsables. Parce qu'on a tous regardé, parce qu'on a tous commenté, parce qu'on a tous, à un moment, détourné les yeux quand ça devenait trop dur. » Sur une note plus légère, quoique pas totalement, du cinéma, avec la sortie hier du film Julian, premier long métrage de la réalisatrice Cato Custers et porté par l'actrice césarisée Nina Meurice. Julian retrace la vraie histoire d'amour de deux femmes, Fleur et Julian, qui décident de se marier dans les 22 pays dans lesquels il leur est légalement possible de le faire. Leur défi est à la fois personnel, symbolique, mais aussi engagé. Malheureusement, au bout de 4 mariages, un drame vient interrompre le projet. Une histoire d'amour triste, certes, mais aussi lumineuse et inspirante. Rendez-vous donc dans les salles obscures pour découvrir Julian. On termine avec la situation au Moyen-Orient. Le Flash Info sera définitivement morose, puisque la guerre qui oppose Israël à l'Iran dure maintenant depuis 27 jours. Et il est encore difficile d'entrevoir une issue. Alors que les bombardements israéliens se poursuivent en Iran et au Liban, les prises de parole de Washington et de Téhéran restent contradictoires quant à l'obtention d'un accord de paix. En effet, l'émissaire américain Steve Witkoff a déclaré cet après-midi qu'il existait des signaux forts en faveur d'un accord avec l'Iran. De son côté, Téhéran a nié tout accord de négociation et affirme qu'aucun plan de pourparlers ne semble réaliste à ce stade.
Eh bien, merci Mathilde. Tout de suite, on écoute Téléphone de Trickency. Why you pressed on my telephone? You're so obsessed with me. I won't cut my body, still team, my money stay green, girl. I must be the one, the one. Talk on me, talk about me in these streets. Y'all might be the only thing that run, that run. Love me, hate me, you can't mend me. Upset, angry, you can't hit my line again. I'll be doing what I've been. I be no stress while you pressed on my telephone. You so obsessed with me, 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 me. I could care less, you stay blessed on my telephone. Acting a mess with me, 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 me. Whoa, you can say what you want, 'cause I be no stress while you pressed on my telephone. You so obsessed with me, 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 me. Can't stay irritated, I can't be replicated, I can't be duplicated. I'm still your favorite. Oh, no, I'm your guilty pleasure, no one can do it better. I'm there to make you head up. I'm still your favorite. Love me, hate me, you can't make me upset, angry. You can't hit my line again. I'll be doing what I've been. I'll be no stress while you pressed on my telephone. It's easy to run your mouth when you're sitting on your mama's couch. It's easy to be frustrated when you're always calculating. Said we should have had a fun, but we never ever need him more. Said we don't deserve this title, look who became your idol. I be no stress while you pressed on my telephone. C'était Téléphone de Trickency sur Radio Campus Paris.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Et Hortense nous a rejoint et va nous faire sa chronique Actu, bonjour Hortense.
Eh oui, bonjour. Alors depuis le 30 janvier, le Jeu de Paume nous propose une exposition rétrospective de Martine Parr, Haute en couleur. Cette rétrospective est teintée d'une ambiance particulière car c'est la dernière de l'artiste décédée en décembre 2025. Alors, qu'en est-il de cet ultime événement ? Le travail de Martine Parr a certainement marqué notre époque. En effet, les couleurs vives conjuguées à des figures humaines prises dans l'instantané se retrouvent et dans de nombreuses inspirations, mais aussi dans notre culture visuelle. En effet, les photos isolées documentent le réel d'une manière ironique et esthétique qui se prête à l'illustration de nombreux propos. Pour autant, la rétrospective du Jeu de Paume rassemble toute l'œuvre de l'artiste et c'est ça qui fait effet coup de poing parce que ça nous pousse à une comparaison certaine. Et une fois mise en comparaison, le titre de l'expo Global Warning commence à faire sens. En effet, la direction de cet événement est de prendre au sérieux le regard de Martine Parr comme le reflet d'une société qui est malade. On y voit la surconsommation, le tourisme à outrance, des classes moyennes aux ultra riches. L'artiste fait finalement un portrait acerbe de notre monde. Au mur, pourtant, les couleurs sont pastels, rose, bleu, jaune, et les salles sont organisées par thématiques iconographiques. Cette exposition conjugue alors l'esthétisme de Martine Parr, une scénographie amusante et légère, tout en évoquant des sujets politiques qui touchent le tourisme et la surconsommation des paysages et des biens culturels. Alors, on se place comment en tant que spectateur et acteur du désastre qui nous est présenté. Pour dire vrai, c'est la première phrase de l'exposition qui m'a saisie. Le premier texte souligne que Martine Parr est un artiste qui n'est pas politique. Martine Parr n'est en effet pas allée sur le terrain, photographier la guerre, les crises, mais au long cours, dans les supermarchés, sur les plages et dans les événements divers, il a photographié la crise capitaliste qui nous touche de manière croissante. Moi perso, j'accepte que peut-être ce ne soit pas politique. On va dire que c'est un constat. L'artiste s'est placé toute sa vie en observateur du monde qui l'entoure. Ce qui est néanmoins politique, c'est le spectateur, c'est nous. Ce constat tellement absurde, cynique et parfois pitoyable et qui nous est présenté permet de prendre conscience, de prendre de la distance sur notre manière d'habiter le monde. Ironiquement, dans certaines siamèses de l'exposition, il y a des trous de la taille d'un cadre qui nous laissent entrevoir la pièce d'à côté. Lorsqu'on les croise, ces trous béants, on a presque l'impression d'observer une caricature de Martine Parr, dont les autres visiteurs du Jeu de Paume seraient les acteurs. Une sorte de mise en abîme, si vous voulez. Au final, cette exposition nous engage toujours dans l'œil passif du photographe. Si lui ne prend pas position, alors nous sommes ici dans l'obligation de le faire. Se scandaliser des énormités ou de s'apitoyer à propos d'un monde déterminé à s'autodétruire. Car ce ne sont pas tellement les coupables qui sont montrés, mais bien souvent les victimes. Ceux qui héritent d'un système malade et qui ont été éduqués dans l'idéal consumériste. En négatif, il nous encourage à faire attention à ce qui semble absent de ces images. À force de voir les effets, on finit forcément par s'interroger sur les causes et sur les moyens d'agir et d'évoluer vers autre chose. Alors non, cet art n'est peut-être pas politique. Ce qui est politique, néanmoins, c'est le chemin qui nous entraîne à faire. Martine Parr, c'est au Jeu de Paume jusqu'au 24 mai. En attendant, je vous invite à aller voir cette exposition qui va peut-être vous faire remettre en cause l'organisation de vos prochaines vacances au Cap d'Agde.
Eh bien, merci Hortense. Et tout de suite, on retrouve le Zoom de la matinale.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
Et dans le Zoom de ce soir, nous allons découvrir le festival Nouvelles Ondes organisé par le projet étudiant Sidewalk. Nous sommes avec Lily Rose Demar et Eva Degrelle du pôle production et communication. Bonjour.
Bonjour.
Ouh là là, quel ensemble touchant. Et c'est Tiana qui nous le présente. Bonjour Tiana, je te laisse la parole.
Merci Fabien. Quand on pense à la musique, on pense souvent aux grandes têtes d'affiche des Solidays ou de We Love Green. Souvent, leurs chansons vous évoquent quelque chose, un souvenir, une émotion, un moment, mais seriez-vous prêt à en parler ? C'est le pari que s'est lancé l'équipe Sidewalk. Ce projet est porté par 6 étudiantes en médiation culturelle à la Sorbonne Nouvelle et elles sont parties à la rencontre de jeunes dans toute la capitale pour recueillir leurs expériences autour de la musique. L'événement phare de cette initiative, c'est donc le festival Nouvelles Ondes qui se tiendra du 30 mars au 2 avril à la Sorbonne Nouvelle. En collaboration avec l'association musicale B-Side, le festival a un objectif clair, créer un vrai lien entre le public et les artistes et offrir un regard sincère sur le monde de la musique. Si le concept vous intrigue, rendez-vous sur leur compte Instagram, Sidewalk, S, le chiffre 1, D-E-W-A-L-K et un petit... Je sais plus comment on appelle ça.
Tiré du bas.
Tiré du bas. Pour nous parler de ce festival, nous accueillons aujourd'hui deux de ses représentantes. Eva et Lily Rose, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Eva de Graël, en tant qu'étudiante engagée, tu as rejoint le pôle production de Sidewalk et tu t'es notamment engagée dans des interviews, des micro-trottoirs comme on les appelle, car tu souhaites plus tard te tourner vers la médiation culturelle. Quant à toi, Lily Rose Desmarres, tu es la trésorière de B-Side, une association qui cherche à promouvoir et à soutenir les jeunes étudiants s'engageant dans une carrière musicale. Et vous êtes donc un des collaborateurs principaux du festival. Alors, comme première question, je voulais vous demander comment était née l'idée du festival Sidewalk et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans le projet. À vous maintenant de choisir qui répond.
Au départ, on avait toutes des envies un peu différentes. On avait vraiment carte blanche au niveau du cours de projet de médiation. Et certaines avaient envie de faire quelque chose de plus concret, d'autres faire quelque chose plus sur les réseaux. Et donc, au début, l'idée des micro-trottoirs est arrivée comme ça, où on a aussi essayé de faire de la médiation sur les réseaux en cherchant l'interaction dans les stories, par exemple, etc. Et on avait aussi quand même envie de faire un projet un peu plus concret et en tout cas qui ne soit pas dans des échanges de 5 minutes avec des gens. C'est pour ça qu'on avait envie de faire ce festival-là.
Et Eva, ma prochaine question, elle est pour toi. En décrivant votre projet, vous utilisez souvent le terme de concert-débat. Et qu'est-ce que ça signifie en fait concrètement ?
En fait, un concert-débat, ce serait un peu comme un... Comme parfois au théâtre, ça se fait un peu en ce moment, depuis quelques années, où à la fin du spectacle, on peut discuter avec l'artiste. Et là, ce serait ça, ce serait ou avant, ou pendant, ou après, selon comment le groupe ou l'artiste se sent à l'aise, et vraiment pouvoir échanger avec lui pour en connaître plus sur ce qui compte pour eux, sur l'histoire de leur groupe, etc. Et voilà, vraiment créer un échange et pas juste être spectateur et s'en arrêter là, briser un peu le mur qui sépare le spectateur de l'artiste.
Et toi, Lily Rose, de ce qui est de B-Side, comment vous avez sélectionné donc, ces artistes pour le festival ? Est-ce que vous avez constaté aussi qu'il y avait un genre qui était plus présent que d'autres chez les artistes ?
Alors du coup, pour la sélection des artistes, ça s'est passé du coup que du côté B-Side. Et les membres du bureau ont la chance de pouvoir voter pour les artistes. On a eu pas mal de candidatures et on voulait du coup sélectionner 6 candidats. Pour ce qui est des genres musicaux, on a eu beaucoup de variétés. Mais ce qui ressort beaucoup cette année, c'est tout ce qui est rock indépendant ou balade, etc. Même durant d'autres projets qu'on a fait avec B-Side, c'est un peu le genre qui ressortait beaucoup. Donc peut-être la tendance du moment, je dirais.
Et est-ce que c'est des étudiants seulement de la Sorbonne Nouvelle ou vous étiez ouvert à peut-être d'autres universités ?
Oui, pas du tout. C'était ouvert, c'est une candidature qu'on a ouvert à beaucoup de gens. Il y a beaucoup de groupes là qui vont participer qui ne sont pas
du tout de la Sorbonne Nouvelle. D'accord. Et j'avais vu exactement, enfin aussi dans votre présentation, que en fait ce qui vous gênait dans l'idée en fait l'idée qui vous a mené au concert des bases, c'était avant tout parce que ce qui vous gênait, c'était d'enseigner en fait au public des genres musicaux et qu'en fait il y ait une hiérarchie. Et en fait, est-ce que vous pourriez plus approfondir cette idée-là ?
Alors du coup, dans l'idée de la médiation de nos études, on nous apprend beaucoup, et même nous, c'est un peu la vocation qu'on veut suivre, le fait d'égaliser tous les genres musicaux et de réussir à ouvrir les gens qui ne sont pas familiers avec certains genres musicaux avec du coup ceux qui ne connaissent pas, et inversement. Et je trouve que du coup c'est une belle façon de le faire, parce que des gens qui ne seront pas forcément familiers avec, par exemple, des groupes de rock, vont pouvoir leur poser des questions directement et rentrer dans leur univers. Et ça, la communication passe beaucoup mieux par l'échange directement.
Et dans un autre cas de figure, ça n'aurait pas été possible, c'est ça que vous pensez ?
Si, ça aurait été potentiellement possible. Mais là, c'est vrai que d'être d'abord confronté à la musique, donc déjà de s'en faire son propre avis quand on écoute, et ensuite pouvoir échanger et poser des questions directement en tant que spectateur, je trouve que c'est une très belle façon de le faire.
Et qu'est-ce que ça représente en fait pour B-Side de collaborer à un festival comme Sidewalk, Nouvelles Ondes ? Qu'est-ce que ça apporte aux artistes que vous soutenez ? Est-ce qu'il y a un réel impact ? Est-ce qu'ils vont avoir un effet en fait de promotion.
Je sais pas s'ils sont très connus déjà.
Non, B-Side travaille principalement avec des artistes émergents, ouais, et du d'accord. coup ça leur donne de l'expérience entre guillemets. Après, je pense pas que forcément ça va leur donner un peu de visibilité, mais le public de la Sorbonne Nouvelle ne sera pas un gros tremplin de promotion, je pense. Mais en tout cas, ça leur donne l'expérience de pouvoir faire de la scène et de s'entraîner, etc. Et...
évidemment. Ouais. Et le festival se déroule donc du 30 mars au 2 avril. Mmh. Est-ce que ce seront pendant les horaires de cours ? Est-ce que ce sera organisé le soir ?
Ce sera sur les temps du midi.
D'accord.
Donc en général, de 11h à 14h, ça dépend. Parfois, c'est les concerts avant, parfois, c'est les concerts après les ateliers de médiation.
C'est ouvert au public externe ?
Alors, ça, c'est une question qui est un peu... comment dire ?
Touchy.
Oui. alors, tous les étudiants, bien sûr, peuvent rentrer dans la Sorbonne Nouvelle parce qu'ils sont étudiants. Et en fait, on peut rentrer dans l'université grâce à la présentation de la carte étudiante. Mais pour tout ce qui est public extérieur, donc le public non étudiant,
c'est moins sûr.
Il est très conseillé, voire obligatoire, de réserver sa place sur
Le site de la Sorbonne, je crois.
Le site des services agriculture oui. de la D'accord. Sorbonne Nouvelle. Mm-hmm. Voilà, mais c'est sur dans leur bio, vous pourrez trouver okay. Le lien directement.
Pour parler aussi d'un peu en général de Sidewalk, du projet et pas seulement du festival, de ce qui est des micro-trottoirs, notamment sur lesquels toi, Eva, tu t'es penchée. Mm-hmm. Déjà, dans la présentation du projet, vous dites que vous visez principalement un public jeune, donc mm-hmm. entre 18 et 30 ans. Et est-ce que quand vous avez questionné les personnes sur leur goût, est-ce qu'il y a eu un genre qui ressortait du lot
Je dirais que c'était vraiment très variable. Mm-hmm. D'ailleurs, au niveau de la tranche d'âge, ça a un peu évolué parce qu'on a un peu pris ce qui venait. Et ouais. c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'en fait, les personnes de notre âge, ce n'est pas forcément celles qui étaient les plus d'accord pour être filmées. Donc, on a plus eu des personnes plus proches de la trentaine que de notre âge à nous. Mm-hmm. Mais sinon, au niveau des genres musicaux, c'est vrai qu'au début, on a eu quelqu'un qui nous a parlé de métal. Des fois, on a simplement de la pop. Après, des fois, il y a aussi des concepts où juste on fait écouter une musique mm-hmm. que nous, on cherche dans nos playlists. Je ne sais pas, par exemple, on a fait écouter du Björk ou plus des choses mm-hmm. instrumentales. Et là, donc, du coup, c'est plus eux qui réagissent à ce qu'ils entendent. Ils ne nous parlent pas forcément d'un genre particulier.
D'autant plus que dans les interviewés, il y a eu des gens qui n'étaient pas d'origine française. Donc d'accord. en fait, ça permettait d'avoir tout un autre panel aussi ouais. de musique qu'on connaissait moins.
D'accord. Donc, moi, je pensais surtout que peut-être on allait entendre parler plus de rap, qui parle plus forcément à la jeunesse, mais donc c'était pas forcément le cas.
Je crois qu'on a même eu personne qui nous a parlé de rap.
Ouais.
Étonnamment. C'est assez drôle.
Ouais.
Et est-ce que vous prévoyez aussi de faire d'autres événements cette année pour promouvoir des artistes émergents, notamment en fait avec B-Side ?
Alors avec B-Side, oui. On a un événement qui est la B-Side Party qui aura lieu en avril. Mm-hmm. Et après, on a d'autres événements tout au long de l'année, surtout en septembre aussi, on a des événements.
Oui, donc là, c'est sans Sidewalk. Quoi.
Oui, sans Sidewalk. Et Sidewalk, par contre, c'est un concept qui est éphémère et qui se terminera avec notre fin d'études aussi. Mmh. Et qui se terminera, qui se clôturera avec le festival.
C'est un projet étudiant dans le cadre de
c'est
votre
ça,
licence
ça, dans le cadre de notre licence. Et du coup, c'est pour ça qu'on s'est fait porter par B-Side. Mais B-Side continuera ce festival Nouvelles Ondes mmh. sans nous, du coup. Des autres années.
Il n'y aura pas d'atelier de médiation, du coup. Okay.
Ou peut-être qu'il y aura d'autres associations qui vont se coller avec, mais ce ne sera pas nous, du coup.
On a parlé du festival, mais on n'a pas parlé des artistes qui allaient se présenter. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques noms et peut-être les présenter ?
Je ne les connais pas tous. Je sais que c'est assez drôle, mais il y a une personne qui est dans notre classe qui va venir jouer avec son groupe le dernier jour, je crois. Oui. D'accord, c'est avec eux qu'on fera le Q&A. Mm-hmm. Et sinon, j'avoue que les autres artistes, je ne les connais pas du tout.
Oui, on les a sélectionnés, mais en fait, comme je vous ai dit, ce n'est pas forcément des gens qu'on connaît déjà avec B7. On lance juste les candidatures comme ça et puis après on apprend à les connaître. Je sais qu'on avait déjà eu programmé Loos avec B-Side, Marne Dantmeger aussi qui fait partie de notre asso qui est bénévole aussi. Et après les autres artistes, c'est des artistes qui viennent d'ailleurs, etc.
Et c'est quoi comme genre de musique
Alors on a Des balades, rock indépendant aussi, des initiatives du coup avec la fille de notre classe, c'est du rock aussi. Je pense que c'est plutôt orienté ça, ou alors pop, mais y a pas de rap, je crois pas. Mmh. Ouais.
Et au niveau de la scénographie, c'est vous qui vous en occupez ou vous avez un soutien de la fac?
Il n'y a pas énormément de scénographie.
Ouais, c'est un peu dans un théâtre de verdure en extérieur.
On a un lieu qu'on utilise avec la fac qui est très bien pour ça parce qu'il y a une sorte de gradin en face. Mais sinon, il n'y aura pas plus que ça. Après, les artistes mettent leurs instruments, etc. Et ce sera tout.
Merci beaucoup. L'interview arrive à sa fin. Merci beaucoup encore d'être venu ici nous parler en fait de ce festival qui a lieu, donc je le rappelle, du 30 mars au 2 avril à la Sorbonne Nouvelle. Vous pouvez prendre vos places sur le site de la fac. Et je laisse la parole à Fabien.
Ben merci Tiana et merci donc Lily Rose Demar et Eva Degrelle. Et tout de suite, on écoute I Just Can't Get Over Losing You de The Lemon. C'était I Just Can't Get Over Losing You de The Lemon Twips.
La matinale de 19h. Radio Campus Paris.
Et je suis avec Thomas. Bonjour Thomas.
Salut.
Et donc toi, tu vas nous parler de la réduction de bruit et de l'hypersensibilité au son. C'est bien cela ?
Eh ouais.
Eh bien vas-y, nous t'écoutons.
Malgré moi, j'ai tenté une aventure. Aventure qui demande audace et bravoure à mettre sur mon épitaphe. J'ai essayé Paris, oui, la ville de Paris. Sans écouteurs. Pourquoi ? Bah, je perds beaucoup mes affaires. Donc forcément, quand vous oubliez une paire à 200 boules dans le tram, que vous cassez le boîtier de la suivante en vélo, que vous faites tomber dans le vide écouteurs et portable en rando l'été d'après, ouais, ma banquière est arrivée, sa main sur mon épaule, et m'a dit d'une voix maternelle comme pédante « Thomas, arrêtez, vous êtes pauvre !» Je suis donc passé aux filières, on m'a dit que j'étais rétro slash vintage. J'ai pris le compliment, tandis que mes filières, eux, se sont pris dans les portes du métro où on finit câble lacéré par mes clés. Message compris, j'ai donc lancé ce pari sans écouteurs. Adieu la suppression de bruit, fini mon calme artificiel, titillons sans protection ce truc dont la psy m'a adoubé, l'hypersensibilité. Ouais, ce truc qui tape bien fort le système sensoriel, des stimuli perçus trop intenses, lumière, son ou le toucher par exemple. Malgré sa réputation entre ésotérisme et autodiagnostic, c'est une potentielle source de mal-être pour 15 à 30% de la population. Ce serait génétique, il paraît. Je reprends une citation entendue à la radio. L'hypersensibilité, ce n'est pas une maladie. C'est un tempérament, une nature, une façon d'être. Certains anthropologues disent même que ce serait une façon de voir le monde. Bref, c'est jouer à la vie en mode difficile. Parce que sans être une maladie, l'hypersensibilité, c'est le train qui peut en cacher un autre. Si elle ne prédispose pas à d'autres psychopathologies, elle peut faire caisse de résonance et favoriser des caractères hystériques, obsessionnels, phobiques, maniaco-dépressifs, paranoïaques, voire des troubles addictifs. Maintenant, pensons ensemble à un endroit imaginaire, surstimulant. Exemple, une ville de 11 millions d'habitants avec des métros qui hurlent à chaque station de « mind the gap between the train and the platform ». Des gens qui téléphonent en haut-parleur dans le tram, des odeurs bien fortes de pisse et de fange, des panneaux publicitaires qui éclatent les yeux, le frotteur transpirant qui se colle bien à vous dans le bus, devant cette barre que vous devriez saisir mais que vous savez couverte de germes. Ce groupe en terrasse qui rit fort, qui souffle la fumée de leur vogue droit dans votre nez. Est-ce qu'ils sont en train de rire de vous ? Des klaxons, des fumées de pots d'échappement, des poivreaux qui braillent avec leur haleine de vodka, mais à qui parlent-ils ? Et que les roues de la ligne 3 crissent fort sur leurs rails ? Imaginez une odieuse ville comme ça pour des gens qui ressentent tout fort, très fort. Est-ce qu'un tel endroit ne ressemble pas à un enfer sur Terre ? Enfin bon, revenons à Paris. Moi, sans ma réduction de bruit, ni même de musique pour occulter ce qu'il se dit autour de moi. Sacré voyage. Qu'est-ce que ça parle sans écouteurs ? On m'a demandé plein de fois le chemin ou l'heure, on m'a même demandé la marque de mon parfum. Espion incognito, j'ai pu entendre des couples se prendre la tête. J'en ai entendu d'autres se dire qu'ils s'aiment. J'ai entendu un père dire à son fils qu'il était fier de lui et un autre, le lendemain, dire à sa fille qu'il la massacrerait si elle essayait encore de lâcher sa main. J'ai entendu des amis hurler de joie à la gare quand ils s'enlacent après une longue absence. J'ai entendu des familles sangloter des au revoir sur les quais. Au moins, j'ai entendu Knafo, Las et Bayrou pleurer leur défaite au municipal. Tout ça, c'était intense. Beaucoup d'informations, trop, pour moi. Je vais pas faire l'hypocrite, j'ai tenu 10 jours. Je suis allé faire une ultime balade avec mes oreilles à l'air, ciel bleu, direction la Fnac. J'ai demandé au vendeur une paire avec une bonne réduction de bruit et je suis reparti avec des Marshalls qui, je l'espère, me feront au moins quelques mois.
Eh bien, merci Thomas pour cette chronique sur la réduction de bruit et l'hypersensibilité au son. La matinale de 19h est terminée. Merci à Léna Mauger de la revue Cometa. Merci à Félix. Merci à Lily Rose d'Emar et Eva Degrelle de Sidewalk. Merci à Mathilde. Et pour le Flash Info, merci à Hortense et Thomas pour leur chronique. La matinale revient lundi à 19h. Tout de suite, c'est Univox, le rendez-vous hebdomadaire des mouvements jeunes et citoyens. Passez une bonne soirée à l'écoute de Radio Campus Paris.
Radio Campus Paris.